soirée.
Solide.
Live.
Live.
Très, très solide.
Live.
Avec Dominique Moret.
Radio.
Circulation ce matin, c'est... je vais m'enlever du lac America. Lac America, c'est ma carte. Ça va bien, Sandbank, ça existe encore. Vous pouvez y aller, mais c'est compliqué. Compliqué surtout sur la rive sud, l'accès aux pompiers à la porte. C'est du costaud ce matin. Là. On n'est pas encore lundi prochain. Lundi prochain, ça va être l'enfer, le Dawa total. Ce matin, c'était compliqué. Ça l'est encore à la tête des ponts. Accrochage capitale, direction S, un peu après être passé à la hauteur de Robert Bourassa. La sortie vers la 46e, là, il y a un accrochage dans ce secteur. Là, ça cause des problèmes. Vous nous écrivez au 88-670-9098 pour nous dire ce que vous voyez sur les routes. E-Box t'offre un cadeau de rentrée. 100$ en carte prépayée quand tu t'abonnes au carnet 500 Mbps à 55$ par mois. Détail au e-box.ca. Oui, c'est à toi, Adam.
C'est à moi?
Ben oui.
C'est là, moi, je suis en train de... je regardais le monde, pas d'écouteur. Je pensais pas qu'on était... On était là. J'étais jasé avec Nick et tout. Les extraits sont là en passant, donc tout est beau pour les gens qui veulent consulter le contenu. Il y a quand même du gros contenu en ce lundi. Entre autres, allez écouter le premier bloc avec Éric Duhaime. Là, on reçoit un autre chef de parti. Mais je vous dirais que ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Maxime Bernier, comment ça va?
Ça va bien, merci de l'invitation.
Ça fait des années?
Ben oui, bien oui.
Il y a eu une pandémie entre les deux. ou ce que certains ont appelé une pandémie, là, mais ça, je ne reviendrai pas là-dessus. Ça va bien, toujours chef du Parti populaire?
Ben oui, toujours chef du Parti populaire. Okay. Je voyage un peu à travers le pays. J'étais en Alberta il y a 3 semaines. Comme tu dois t'en douter, Dominique, on est beaucoup plus fort en Alberta
oui.
qu'au niveau canadien. Et je vais y retourner, surtout c'est la campagne là-bas référendaire. Il y a un référendum le 19 octobre.
Est-ce que vous voteriez oui ou non?
Bien, justement, la question n'est pas nécessairement est-ce que vous voulez que l'Alberta devienne un pays souverain, oui ou oui. non? Et la question, c'est un peu comme la question qu'on avait au Québec en 1980. Donc, la première, c'est en deux étapes. La première partie de la question, est-ce que vous voulez que l'Alberta demeure une province canadienne? Donc, ça, c'est le statu quo. Et la deuxième partie, ou bien que l'Alberta entame le processus pour avoir un référendum formel sur l'indépendance dans quelques années? Et moi, je dis aux Albertains, je suis le seul chef fédéral à dire ça, vous devriez voter pour la deuxième option, débuter le processus pour un référendum formel, parce que ça donne un pouvoir de négociation à la première ministre. Et oui. c'est un peu comme dans le temps de Bourassa au Québec, le couteau sur la gorge. Et les deux autres chefs, Poilievre et Carney, sont dans une coalition ensemble et disent aux Albertains, votez pour le statu quo, ce que les Albertains n'aiment pas.
Et Daniel Smith n'est pas pour la séparation, elle non plus.
Non, et dans son parti, quand même, il y a à peu près 30 % d'indépendantistes. Donc, elle déçoit une partie de son aile indépendantiste, mais je pense que moi, actuellement, si on regarde les sondages en Alberta, là, la position de débuter le processus a à peu près 30 % d'appui. On va voir qu'est-ce qui va arriver. Mais ils n'ont rien à perdre, et c'est ce que je leur dis. Et quand je faisais ma tournée là-bas, un peu partout dans différentes villes. Ce qu'ils voulaient savoir, c'est les leçons du Québec par rapport au référendum. Et ils sont très sérieux. Et moi, je leur dis, écoutez, là, je ne vois pas un fédéraliste voter pour le statu quo. Parce que demeurer une province, c'est le statu quo. C'est dire au fédéral, tout est correct, faites pas de changement. Mais c'est pas ça que la population veut là-bas.
Vous étiez indépendantiste, je pense.
Oui, oui, moi j'ai voté oui au référendum
de 1995. Et vous étiez attaché de Bernard Landry.
Bernard Landry, effectivement.
Okay.
J'étais son gars de droite à Bernard Landry et j'ai une anecdote là-dessus.
Oui.
Lorsqu'il faisait les budgets, moi j'étais pas là, j'étais un conseiller législatif pour la législation dans le secteur financier. Mais lorsqu'il faisait les budgets, avant de présenter son budget, il disait « on va aller voir Maxime, je vais lui parler de mon budget, voir qu'est-ce qu'il va dire ». Et je me rappelle que... Il prônait, il disait qu'avec son budget, il y a tant de Québécois qui ne paieront pas d'impôts. Et ça, c'était une bonne nouvelle. Mais là, je dis, M. Landry, ce n'est pas une bonne nouvelle. Vous êtes en train de dire que les Québécois sont trop pauvres pour payer de l'impôt. J'ai dit, vous, c'est de créer de la richesse. Il n'avait pas diminué l'impôt de la classe moyenne. Et là, ça le fait réfléchir un peu. Il dit, ouais, on va vérifier nos chiffres. Mais s'il y a très peu de Québécois qui payent de l'impôt sur le revenu, ça veut dire qu'il y a très peu de Québécois qui sont riches.
Ils font de l'argent, c'est ça, oui. Exact. Restons-en là. Moi, j'ai bon souvenir de M. Bernard Landry qui n'hésitait pas à nous parler ici à Radio X. Mais plus jeune, moi, je me souviens de Bernard Landry, le libre-échangiste, amoureux oui. des Américains, amoureux des États-Unis. J'ai raison de dire que c'est un libre-échangiste.
Ah, absolument. Moi, j'étais jeune étudiant à l'Université d'Ottawa en droit et j'avais fait venir Bernard Landry et le président de la CSN à l'époque pour nous faire un débat sur le libre-échange entre le Canada et les États-Unis en 1988. Et Bernard Landry gagnait tous ces débats-là haut la main, oui. Et il avait écrit un livre là-dessus, d'ailleurs.
Bien, je veux que vous analysiez ce qu'on est en train de vivre. Là, je sais que vous êtes chef de parti, mais on va tasser ça. Là. Moi, je veux parler à l'ancien gars de l'IEDM, le gars de business, libertarien, libre-échangiste. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Comment ça que Trump fait ça? Le raisonnement, peut-être tenter de nous l'expliquer de manière claire. Et la stratégie Carney, y a-t-il quoi à comprendre là-dedans?
Bien, il faut...
Essayez de nous démêler ça, mais d'un regard de libre-échangiste.
Oui, bien, premièrement... On n'a pas un vrai libre-échange avec les Américains. Non. C'est un libre-échange administré. Ce qu'a signé Brian Mulroney en 88, c'était une bonne entente. C'est mieux que pas avoir du tout d'entente de libre-échange. Ça a permis la prospérité au Canada. Ça a été un grand succès. Ceci étant dit, il y a eu des négociations. Il y a des négociations qui sont là. Et Carney a jugé que ce qu'il y avait sur la table ne faisait pas son affaire. Donc, il a quitté la table. Là-dessus, moi... Je pense que c'était peut-être une bonne décision. Ou j'aime pas ce que Carney a fait, c'est d'imposer des contre-tarifs. Et là, on se tire dans le pied parce qu'il a débuté une escalation. Il y a une escalade du conflit actuellement. Et on sait que le président Trump est imprévisible. Et il a déjà dit que si on impose nos tarifs le 8 septembre, eh bien là, il y aura d'autres tarifs que Trump va imposer dès le début janvier. Et la réalité, c'est que les Américains, leur économie est 10 fois plus grosse que la nôtre. Donc, selon moi, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? C'est-à-dire, oui, si on n'a pas une bonne entente, rien ne nous oblige à signer une entente avec les Américains, quitter la table de négociation, mais ne pas imposer de contre-tarifs parce que c'est nous, les Canadiens, qui payons pour ça. Et là, et la manière dont Carney a agi, il a agi en regardant les sondages et il a joué l'émotion. Et on l'a vu lors de sa déclaration dès le samedi suivant le vendredi soir où on a joué la culture, on a joué l'émotion. Et les médias ont tellement suivi Trump.
Ils ont relayé l'information du côté de Radio-Canada en prenant ça du cash.
Ah, absolument. Mais on avait préparé l'opinion publique contre Trump depuis déjà plusieurs mois. Et là, donc, l'opinion publique était fâchée. L'opinion publique demandait de se venger et il a suivi l'opinion publique. Et la même chose aussi pour Poilievre. Là-dessus, ils sont d'accord avec des contre-tarifs. On est le seul parti qui dit non, on se tire dans le pied. Et cette émotion-là va passer et la raison va prédominer. Ça va arriver parce que lorsque les gens vont se réveiller, déjà on a de l'inflation au Canada, déjà le coût de la vie est élevé et on va augmenter ça sur des biens de consommation que tout le monde achète. Les gens vont se réveiller, vont voir que les contre-tarifs n'étaient pas une bonne idée. Mais au lieu d'éduquer et d'informer les gens, on joue avec l'émotion. Et il a bien fait parce qu'aujourd'hui, dans les sondages, si on analyse ça politiquement, il est à 40-quelques % dans les sondages. Mais je pense que ça risque de se revirer contre lui. Nous, ce qu'on aurait fait, la meilleure solution, c'est de s'assurer que notre économie soit plus productive. Abolir les impôts sur les gains capitaux, un taux unique d'imposition pour les entreprises, plus de subventions aux entreprises. Mais avant de faire tout ça, équilibrer le budget en un an en coupant les dépenses folles. Il faut couper 65 milliards de dollars. Et ça, la dernière campagne, on a dit qu'est-ce qu'on ferait pour couper ça. Et avec les surplus, diminuer les taxes et les impôts. Et là, on a des diminutions d'impôts permanentes. C'est ce qu'il faut faire, mais on ne le fait pas. Inciter à avoir un vrai libre-échange au Canada. Donc, moi, je pense que les prochaines années vont être très difficiles. Et là, Carney, ce qu'il a fait, il nous a amenés dans un moment d'incertitude. Et si vous êtes un homme d'affaires... Investir au Canada actuellement pour créer des emplois lorsqu'il y a de l'incertitude, des tarifs que Trump peut imposer en janvier, des contre-tarifs, je pense que ces entrepreneurs-là vont peut-être aller aux États-Unis et investir aux États-Unis. Et d'ailleurs, c'est ce que fait le président Trump. Il dit aux entreprises canadiennes, vous êtes bienvenus.
Dans son dernier message.
Effectivement.
Puis il y a une étude de... Ben, j'ai fait une entrevue avec un prof de Carleton en économie qui n'est pas du tout elbows up. C'est l'un des rares, là, qui est un prof de business, en fait, qui dit... que selon une étude de KPMG, que je n'ai pas lue, mais je donne la citation, là, il y a plus de 40 % des compagnies qui soit ont commencé à envoyer leurs activités aux États-Unis ou songent ou envisageraient de déménager aux États-Unis.
Effectivement.
Et là, Trump nous a mis la botte à la gorge hier en disant « Hey, oh, hey, les compagnies là, qui ne veulent pas de tarifs, venez-vous-en aux États-Unis. » Ça, c'est un jeu excessivement dangereux, surtout à la lumière de, je ne sais pas si vous avez vu, les deux entrevues à Bloomberg, une avec Freeland, l'autre avec Leblanc, où ils ont été carrément knock-outés en pleine télé américaine. En fait, c'est Bloomberg, diffusé au Canada, là, mais c'est une chaîne américaine, où on leur a donné les indices de performance de l'OCDE où le Canada arrive
bon dernier.
Et Maxime là, Bernier, il n'y a personne qui parle de ça.
Non, ils ne veulent pas en parler. Personne ne parle de la réalité parce que...
C'est peurant, ça!
Ben effectivement, c'est pour ça qu'on est en stagnation. On stagne économiquement au Canada. Et...
Sauf l'Alberta qui nous a pondu un surplus de 2 milliards la semaine passée.
Effectivement. Mais ce qu'on fait pour rendre nos entreprises compétitives, ce qu'on devrait faire... c'est d'abaisser l'impôt sur le revenu des entreprises. On n'est pas compétitif. Pourquoi l'entrepreneur investirait ici? Il va payer plus d'impôts sur son revenu et en plus, va payer des tarifs pour exporter son produit aux États-Unis. Il faut mettre de l'ordre dans notre cabane et c'est ce que fait pas les politiciens traditionnels. Ils n'ont pas le courage de dire ça. Même Poilievre, durant la dernière campagne, il disait « Je vais éliminer le budget en 5 ans puis demander un mandat de 4 ans. » Donc, tu sais, il faut dire la réalité aux gens.
Il disait « dollar pour dollar » aussi.
Ben oui, ça, dollar pour dollar. C'est... Moi, c'est l'économie 101. Mais là, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la dernière guerre commerciale à la dernière élection, j'étais le seul à dire que des contre-tarifs, on s'impose nous-mêmes. Il ne faut pas faire ça. Et là, lorsque Trump a déclaré des contre... Pas Trump, mais pardon, Carney a déclaré des contre-tarifs dernièrement, des grands journaux ont dit « Oui, mais c'est une taxe sur les Canadiens. » On commence maintenant dans les grands journaux, les médias, à dire la réalité économique que les contre-tarifs, messieurs, mesdames, là, on se taxe nous-mêmes. C'est pas une arme contre Trump, c'est une arme contre nous-mêmes, contre notre propre portefeuille.
Mais vous êtes premier ministre ce matin, vous faites quoi?
Je fais quoi? J'équilibre le budget, je coupe.
Non, mais...
Par rapport à président
Trump... Non, mais ça, c'est pas de la magie, là. Vous faites quoi, là? Vous êtes là, là. Vous faites quoi? Vous prenez la ligne, vous appelez Trump, vous retournez à Washington, vous-même, c'est quoi? Vous faites quoi?
Premièrement, j'abolis les contre-tarifs.
Oui.
Et ce que je fais...
On retourne à Washington? On reprend la négo, absolument.
Plus vite. Je m'assois avec le président Trump, je regarde qu'est-ce qu'il y en est, et la chose que je lui dis... Vous voulez que vos producteurs laitiers exportent le lait au Québec et au Canada? J'abolis la gestion de l'offre. Non pas pour avoir seulement une bonne entente, mais en premier pour les consommateurs canadiens. On paie presque le double du prix pour les œufs, le poulet et...
Les laitiers ont eu votre tête?
Ben oui.
Ah beau, ça. Vous le savez, ça?
Ben oui, c'est pour ça que je me présente en Alberta à la prochaine.
Non, mais ils sont forts, hein?
Ben oui, mais l'ensemble... Et les politiciens...
C'est l'UPA, hein?
L'UPA. Mais les politiciens ont vu ça... Ils ont tellement vu ce qui m'est arrivé avec l'UPA en disant la vérité qu'ils ne veulent pas toucher à ce cartel-là. Mais on parle de l'inflation alimentaire. Dans un panier d'épicerie, le poulet, le lait, les œufs, c'est important. Et on paie un prix artificiellement élevé. Il faut arrêter ça. Puis ces producteurs-là, sous cartel, pourraient, après ça, exporter leurs produits, comme l'Australie le fait lorsqu'ils embolient leur cartel. On est le seul pays à voir ça.
Mais là, les gens vont dire, je vais me faire l'avocat du diable, les gens vont dire, ouais, mais là, on va être bourré de fromage américain puis de lait américain, moi, je veux rien savoir.
Ben, ça va être eux libres de choisir.
Ça va tuer nos fermes.
OK. Premièrement, la ferme familiale, la réalité, là, depuis l'installation du cartel, depuis l'UPA, 90 % des fermes familiales sont disparues. Maintenant, c'est des entreprises. Et il y a de la consolidation. Deuxièmement, le lait, ils disent « Ah, les Américains donnent des hormones à leurs vaches puis ça se retrouve dans le lait, puis nous aussi, au Québec et au Canada, on fait pas
ça. » Fake news!
Ben, vous avez raison, on fait pas ça au Québec et au Canada, mais lorsqu'un autre produit veut exporter, un autre pays, pardon, veut exporter ses produits comme le lait au Canada, on doit respecter les normes de salubrité. Et donc, si les producteurs canadiens n'ont pas le droit de donner d'hormones à leurs vaches, bien, les exportateurs...
On va établir ça selon le même standard. Le même standard serait imposé à tout le monde.
Les exportateurs américains n'auront pas le droit d'imposer des hormones à leurs vaches pour exporter leur lait.
Êtes-vous pour une pleine compensation si on abandonne les quotas? Comme l'ont fait en Australie, M. Bernier?
Bien, pleine, ça dépend. Moi, ce que
quand je dis pleine, oui, c'est juste équitable, le dire de même.
Juste équitable, valeur au livre. Parce que ce que les producteurs veulent la valeur au marché de leur quota. Non, c'est la valeur au livre. Vous avez amorti votre quota sur plusieurs années.
Comme on a fait avec les permis de taxi.
Absolument. Valeur au livre. Et on leur donne ça sur quelques années.
Le deal avec le Venezuela. On a-tu juste un peu, Dan? OK, parfait. Venezuela, États-Unis. Moi, j'ai vu ça en fin de semaine. J'ai dit, oh boy. J'ai lu l'article dans le Wall Street Journal, quand même, qui pousse un peu plus loin ce matin. C'est carrément les droits d'exploitation du pétrole sur 100 ans. Donc, ni plus ni moins, le Venezuela est devenu une colonie des États-Unis. C'est à peu près ça. Où vous avez Trump qui va vanter Delcy, la vice-présidente, qui était une master communiste. Là, elle est extraordinaire. Et là, pendant 100 ans, les États-Unis vont exploiter le pétrole. Les champs pétrolifères les plus riches au monde, après l'Arabie saoudite, au Véné. Question, doit-on s'inquiéter pour le Canada?
Oui, absolument, parce que le genre de pétrole que le Venezuela exporte, c'est le même genre de pétrole que nous, au Canada, on exporte aux États-Unis.
Oui.
Donc, si les Américains regardent pour leur source d'approvisionnement au sud de leurs frontières, pour leur raffinerie aux États-Unis, bien, ils peuvent acheter moins de pétrole canadien. Et de là, l'importance d'avoir un oléoduc, un pipeline, pour avoir d'autres marchés.
Qui se tourne Excel, fallait le faire. Là.
Ben oui, fallait faire ça.
Et Trudeau était d'accord en passant. Là. C'était pas Trudeau qui l'a saboté, c'est Biden.
Là. Oui, absolument. Mais il en faut un aussi au Canada. Là,
oui.
Il
en faut un au Québec?
Ben, il en faut un au Québec.
Pourquoi qu'il parle pas de ça dans la campagne actuelle?
Ben, ce qu'il faut... Les gens savent pas, c'est que le gaz qui s'en va à l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau, qui part du vieux port de Montréal, ça se fait pas par camion, ça se fait par oléoduc, par pipeline, sous la ville de Montréal. Mon Dieu, c'est dangereux. Non, on est en 2026. On peut construire des pipelines sécuritaires, encore plus que ceux qu'on a construits il y a 30 ans et qui existent actuellement. Donc, il faut arrêter, là. Et comme disait Éric Duhem, vous l'avez eu en entrevue, je suis d'accord qu'il faut exploiter le gaz de schiste. Il faut faire des pipelines. Il faut que le Québec arrête d'être une province pauvre aux yeux du Canada avec la péréquation. Et c'est ce que je dis aux Albertains, nous, on va couper la péréquation de moitié. On va couper ça de 13 milliards, c'est 26 milliards. Le Québec va en avoir moins et c'est pour ça qu'il doit développer ses ressources naturelles. Là, le Québec est assis. Il n'y a pas d'incitatif à développer ses ressources naturelles puisqu'il reçoit 13 milliards d'Ottawa de péréquation. Et s'il développe ses ressources naturelles, bien, le Québec va devenir une province plus riche avec la taxe qu'il va aller chercher de ces entreprises-là. Il faut arrêter ça. Il faut avoir des politiques de gros bon sens et c'est ce qu'on n'a pas.
Je vous écoute. Les gens vous écoutent. Dan est là. Il vous écoute. On vous écoute. Ça a de l'allure, ce que vous dites. Vous avez sensiblement le même discours que Duhem.
Sauf sur l'immigration.
Oui.
Là-dessus, j'ai le même discours que le PQ.
OK. Bon, on s'entend.
Économiquement, Éric Duhem, oui.
Parfait. Mais comment ça que Maxime Bernier, ça a fait de patate?
Bien, je peux vous dire que les médias traditionnels ont...
Ils ont fait un job de bras?
Bien, ils m'ont discrédité au maximum et ils ont bien fait.
Si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que vous referiez différemment?
La création du Parti populaire a été la meilleure décision politique. Un parti qui
mettait
pas...
Oui, mais ça foire. C'est 3-4
On est entre... Du simple au double. On est entre 2 et 4 au Canada, mais on est à 10 dans la province de l'Alberta. Et il s'agit qu'on puisse élire un premier candidat et on va avoir une visibilité plus grande. Là, notre défi, c'est que les médias traditionnels nous ignorent comme si on n'existait pas, malgré le fait que sur plein de politiques publiques importantes pour le futur du Canada, on a des positions complètement différentes. Et là, si on regarde nos politiques une à une, on a toujours entre 40 % et 60 % d'appui dans la population.
Mais c'est ça que je comprends pas.
Les gens font pas lien entre le Parti populaire et nos politiques. Exemple, l'immigration, 60 % des gens disent un moratoire, comme on dit. Exemple, les subventions aux entreprises, abolir ça, les gens sont d'accord à 50 % Exemple, abolir l'aide internationale. On donne des milliards. Il faut aider les Canadiens, les Québécois
absolument.
D'abord.
Oui.
Donc, on est... Poilievre, durant la dernière campagne électorale, il y avait un slogan « Canadien d'abord et Canada d'abord ».
Canada first.
C'est Canada first. C'est notre slogan. On a parti le Parti populaire en 2018 et 2019, notre première élection, en disant non, c'est le Parti populaire pour le peuple et c'est les Canadiens et le peuple d'abord. Donc, c'est pour ça qu'on élimine l'aide étrangère, l'aide à l'Ukraine. Les deux grands partis étaient d'accord pour donner 22 milliards de dollars à l'Ukraine.
Bon,
on était le seul qui parle pour la paix et la prospérité et ramener cet argent-là ici.
Freeland qui a trouvé le moyen de se trouver une connexion aux hommes pour parler alors que c'est... La ville Ouarest est bombardée mur à mur, 24 heures sur 24.
Ce que je suis en train de vous dire, là,
ça n'a pas de bon sens.
L'avenir pour nous, je pense qu'elle est positive. On est dans une parfaite tempête, inflation, déficit, niveau de vie.
Sur l'immigration, en terminant, parce que vous m'avez ouvert la porte, oui. Je trouve ça intéressant, puis je vais finir là-dessus. La même position que le PQ, grosse sortie en fin de semaine quand même, devant les écoles, où on est obligé de mettre des roulottes pour les jeunes. L'immigration complètement folle, où le Parti libéral l'a complètement échappé. Ce qu'on vit au Québec, c'est à faute du fédéral ou c'est à faute du provincial?
C'est à faute du fédéral. C'est l'immigration. Qui a ouvert les portes à l'immigration incontrôlée? C'est Trudeau.
Ici, on n'a pas de contrôle du tout.
Ben, oui, mais au début, premièrement, les étudiants étrangers internationaux, oui. On aurait pu dire au Québec, non, on n'en veut pas.
Ça, c'est fédéral.
Oui, moi, puis aussi les travailleurs étrangers temporaires. On en a plein ici au Québec. Là. Le Québec...
Il y a un demi-million à un moment donné.
Ben oui.
Ça n'a pas d'allure.
Donc, la grosse responsabilité, c'est le fédéral. Oui. Mais les provinces ont un rôle à jouer. Là, le Québec devrait s'apercevoir qu'il n'est pas capable d'intégrer ces gens-là. Ça a un impact sur les services sociaux, sur l'éducation, sur l'école. Les garderies. Écoutez, être citoyen canadien... ou Québécois, être un Québécois, on devrait avoir plus de droits qu'un étranger qui vient ici, oui. Qui n'a jamais payé d'impôts.
Oui.
C'est pas le cas. Nous, on veut un moratoire, il n'y aura plus de programme de travailleurs étrangers temporaires, on abolit ça, excepté...
Les Tim Hortons, ils se trouveront du monde.
Oui, puis s'ils n'en trouvent pas, ils ont juste augmenté leur offre salariale. Et je dis la
c'est
même chose aux entreprises.
C'est très bon, j'aime ça. On ferait plus. Dan, es-tu pour ça?
Ben oui, je suis pour ça.
Ben oui. Vous n'avez pas de monde. Augmente d'une pièce à l'heure, ouais. Deux pièces à l'heure.
Les Québécois et les Canadiens sont pas
That's
fous.
It.
Ils veulent un salaire bien rémunéré.
C'est le marché!
Ben oui. Et là, le taux de chômage chez les jeunes Canadiens et Québécois est 15 %. Mais on a des travailleurs oui. étrangers qui viennent, ah non, qui viennent de l'Inde bien. Actuellement. Là. Ça n'a aucun bon sens.
Merci c'est... beaucoup, Max Bernier. Dan?
Ah non, j'allais dire, c'est exactement ça. Faut payer plus cher, puis on le sait, là. Si on paye les employés plus cher, on va le payer plus cher, notre café. Mais c'est le marché.
Solide. Les gens adorent ça, ce discours-là.
Merci de m'avoir invité.
Ben là, êtes-vous plus en Floride qu'à Québec? Là?
Non,
cette affaire-là.
Je suis au Canada.
L'île, je sais pas quoi, là, vous avez acheté une maison.
Sunnybell, ouais. Oui, c'est une maison. On a acheté ça, c'est une maison qu'on loue. Et je suis en Floride à peu près un mois par année.
L'hiver s'en vient, vous allez être là?
Non, un mois par année. On a choisi le mois de novembre.
OK.
Ça me permet de travailler à partir de là aussi.
Ah oui, la grosse misère. Allez, merci beaucoup.
Merci,
Maxime Bernier. Très courte pause et on revient.
En blazer, live.
Un break, une pause, on revient dans pas long.
Radio.